Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les antennes du poste national de la CRTV. Bienvenue à Politude de ce 4 janvier 2025, première édition de l'année. 2025, année électorale au Cameroun. Le président de la République, sans surprise, a annoncé dans son message à la nation le 31 décembre dernier la tenue de l'élection présidentielle et des élections régionales. Le compte à rebours est donc lancé, les dés sont jetés. Cette année 2025 s'annonce très palpitante pour tous les Camerounais en général et la classe politique en particulier, qui va s'installer au Palais de l'Unité pour un mandat de 7 ans et prononcer le prochain discours à la nation le 31 décembre 2025. Au RDPC, la question ne se pose pas. Le parti du flambeau ardent à son candidat naturel et statutaire, qui est le président de la République, Paul Biya, à qui les militants lancent depuis plusieurs mois des appels incessants à se porter candidat pour un nouveau bail à Etoudi. Au sein de l'opposition camerounaise, des candidats se déclarent et se préparent avec la conviction d'en finir, cette fois-ci, avec le régime du renouveau. Le président Paul Biya appelle les Camerounais a profité de l'élection présidentielle et des élections régionales pour consolider la démocratie dans le pays. Comment y parvenir avec maturité et responsabilité dans un contexte marqué par une montée des enchères des leaders politiques et des leaders religieux qui ne vont pas de bouche morte? C'est la trame de cette édition de Politude. Invité pour des éclairages, le professeur Mathias Eric Owonangini, politologue. Bonjour, professeur Mathias Eric Owonangini, et merci d'honorer la première édition de Politude 2025.
Bonjour, monsieur Constance, je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs.
Intéressons-nous d'abord, professeur, à ces prises de parole de certains leaders de partis politiques le 31 décembre, avec des messages adressés au peuple camerounais. Quelle est l'interprétation que vous faites de cette posture que prennent ces présidents de partis politiques?
L'interprétation qu'on peut en faire, c'est de leaders qui sont un peu présomptueux et dans l'imposture, au sens rigoureux des choses, c'est le président de la République, en tant qu'élu de la nation, qui peut, de manière souveraine, s'adresser au peuple dont il est un représentant éminent dans une fonction des plus éminentes. Les autres leaders politiques sont peut-être en tant qu'entrepreneurs en quête des voix du peuple, mais ils n'ont pas l'habilitation de se prononcer de cette manière. C'est une forme d'imposture et d'indiscipline qui est à dénoncer.
Et curieusement, c'est une pratique qui devient de plus en plus récurrente.
C'est une pratique qui devient récurrente et en fait qui, sur le plan psychanalytique, révèle la soif de pouvoir de ceux qui la pratiquent. Quand on veut devenir chef d'État, il faut déjà respecter les institutions et leur esprit.
Est-ce qu'il est possible d'interdire ces prises de parole?
Interdire au sens strict serait difficile, mais je pense que la communauté des citoyens qui forment la République doit être attentif à cela. Vous ne pouvez pas légitimement vous prononcer dans une posture que vous ne méritez pas.
La manifestation d'un empressement à endosser le soif de chef d'État.
C'est la soif de pouvoir, ou pour le dire en termes un peu plus savants, la libido dominante.
C'est inquiétant pour vous?
C'est inquiétant dans une certaine mesure, parce que si de tels leaders qui expriment leurs ambitions à occuper cette fonction de président de la République se comporte déjà de cette manière, imaginez ce que ce serait s'il pouvait parvenir au pouvoir suprême.
Merci, professeur Mathias Eric Owonangini. Je vous propose d'écouter à présent le président de la République sur les consultations électorales de 2025 et ce qu'il attend des Camerounais.
L'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également, de leur propre fait, en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. L'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés.
Vous venez donc de réécouter cet extrait du discours du chef de l'État prononcé le 31 décembre dernier. Professeur Mathias Erico Onanguiné, premier constat, pas de changement donc dans le calendrier électoral en 2025. C'est bien ce qui était attendu après le décalage des municipales et des législatives.
Oui, c'est bien ce qui était attendu. Et c'est là où on voit la différence entre celui qui a la posture et ceux qui sont dans l'imposture. Parce que celui qui a la posture, le président de la République, a les compétences et les prérogatives qui lui ont permis d'intervenir sur la manière dont le calendrier électoral devait être façonné. Alors que ceux qui sont dans l'imposture ont beau parler, ils n'ont pas cette capacité-là.
Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que cette présidentielle de 2025 va marquer un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun?
Je pense qu'il faut dépassionner les choses. Ce n'est pas la première élection présidentielle pluraliste au Cameroun. Nous avons déjà pratiqué des élections présidentielles pluralistes depuis 1992, 33 ans après. Pourquoi la dramatiser tant? Maintenant, différentes options politiques vont s'affronter et différents champions vont se présenter et on verra celui qui s'imposera. La surdramatisation que certains veulent en faire est précisément un signe d'immaturité.
Et justement, le président de la République, dans son discours, a appelé les acteurs à faire preuve de maturité, de responsabilité avant, pendant et après ces élections. À votre avis, à qui s'adresse-t-il le chef de l'État précisément et comment est-ce qu'on peut manifester cette maturité, cette responsabilité lors de ces consultations électorales?
Je pense que le chef de l'État, le président Paul Biya, est, comme tous les Camerounais aussi, un citoyen qui suit l'actualité politique et qui a eu la possibilité de voir précisément ce que j'appelais la surdramatisation déjà à l'œuvre dans certains courants de l'opinion nationale. Et avec son expérience, il sait généralement à quoi ce type de posture conduit. Voilà pourquoi, en tant que président de la République, expérimenté, il a tenu à préciser et à recommander que cette élection-là se passe dans un contexte d'apaisement où les acteurs doivent faire preuve de maturité et de responsabilité.
Comment est-ce qu'on va la voir concrètement sur les acteurs politiques?
La maturité, elle est déjà précisément dans le contexte préélectoral. C'est la capacité pour les acteurs d'accepter que toutes les candidatures sont possibles à condition qu'elles respectent les canons de la loi et de la réglementation. On a déjà entendu certains commencer à spéculer en posant en inquisiteur que M. Paul Biya ne pourrait pas se présenter. Pourquoi ? Paul Biya est un citoyen camerounais. Jusqu'ici, il a eu l'exercice de ses droits et libertés. Et s'il veut se présenter, il peut se présenter comme tout autre Camerounais qui souhaiterait se présenter à l'élection présidentielle.
Est-ce que le facteur âge du président participe à cette volonté que certains affichent de ne pas voir le président se représenter?
Non, c'est un pur prétexte. Certainement, le président a un certain âge, encore que c'est une bénédiction. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre aussi longtemps. Ceux qui le raillent pour son âge souhaiteraient qu'ils y parviennent, si c'est possible, si Dieu leur en donne la possibilité. Ce n'est qu'un prétexte. En réalité, le vrai problème, c'est que ses rivaux et ses adversaires potentiels ont peur de la puissance politique du président Paul Biya. Voilà la vérité toute simple. Un régime de multipartisme est un régime de concurrence politique où les groupes politiques qui s'affrontent à l'occasion des élections, ici l'élection présidentielle, doivent être en mesure de développer et d'optimiser les ressources qui sont à leur disposition pour essayer de remporter la compétition électorale. Mais si dès le départ, vous vous considérez déjà combattu, évidemment, ce n'est pas un élément de confiance.
Certains ont déjà commencé à s'attaquer aux listes électorales publiées par Elecam. On attribue même déjà des intentions de fraude à Elecam. Est-ce que ce n'est pas déjà préparer le terrain à l'insécurité avant, pendant et après le processus électoral?
Bien entendu, on connaît cette ritournelle qui est développée particulièrement par certains chefs politiques qui se prévalent pourtant, disent-ils, d'être les leaders de l'opposition. Sur quelle base, sinon une base électorale, et à l'occasion d'une élection qui était bel et bien arbitrée par Elections Cameroun?
Elecam, précisément, professeur, quel rôle doit-il jouer pour garantir un scrutin juste et crédible aux Camerounais?
Le rôle d'Elections Cameroun, d'Elecam, est de se comporter comme cela lui est prescrit par la loi qui organise l'activité de cette structure essentielle de la régulation électorale dans notre pays. Vous savez que notre système électoral fait entrer différents acteurs. L'administration territoriale, le commandement, comme on l'appelle commodément, y joue toujours un rôle. La magistrature aussi y a une certaine place. Évidemment, les acteurs que sont les formations politiques y occupent également une place. Mais Elections Cameroun joue un rôle essentiel en termes de régulation du jeu, à côté d'un autre acteur qui, dans certains scrutins particuliers, c'est le cas de l'élection présidentielle, je parle ici du Conseil constitutionnel, participe également de la régulation du processus.
Et il y a aussi la société civile.
Bien entendu, la société civile politique, celle qui en particulier s'occupe de questions civiques, joue aussi un rôle en matière électorale. Il est vrai qu'une partie de cette société civile, en réalité, est souvent dans une position discutable, parce qu'en réalité, elle se fait politicienne, ce qui n'est pas son rôle. Son rôle, en tant que société civile, c'est d'être un médiateur indépendant qui n'a pas à prendre parti, qui peut soulever des problèmes qui se posent dans l'organisation du processus électoral, mais qui n'a pas à s'aligner sur les partis politiques, même d'opposition.
Comment est-ce que vous comprenez, professeur Mathias Eric Onanguini, le président de la République, quand il dit dans son discours, je le cite, « Nous serons ensemble, comme par le passé, transformés ces défis en opportunités et nous continuerons ensemble cette marche déterminée vers le progrès. Et plus loin, dit le président de la République, Paul Biya, ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien. » Est-ce que c'est là le message de quelqu'un qui compte rentrer au village?
Ça ne semble pas être le cas, mais en politique, il faut toujours faire attention parce que on peut avoir cette détermination, mais au final, choisir de rentrer au village. En fait, le président dit qu'il est là en place, il est toujours président, et il peut, s'il l'estime nécessaire, se présenter à nouveau. Il est également membre et surtout chef d'un appareil politique, parce que dans le nous, il y a aussi son appareil politique qui est essentiellement organisé autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
Donc le nous auquel le président fait allusion ne concerne pas l'homme Paul Biya seul?
Ça ne le concerne pas seul, effectivement. ça concerne aussi un appareil politique, ça concerne même un appareil gouvernant à l'exercice depuis plusieurs mandats.
Un des problèmes auxquels les militants accordent une importance particulière au sein du RDPC, c'est qu'il n'y a pas la tenue d'un congrès qui est annoncé, peut-être qu'il se prépare, mais est-ce que sans la tenue d'un congrès, ça ne complique pas davantage la tâche dans la préparation de cette échéance électorale au sein du RDPC?
C'est au sein de cet appareil politique que son leadership, en suivant les courants ou le courant du parti, va se décider sur l'opportunité, la légitimité ou l'utilité d'un congrès avant les échéances électorales constituées par le scrutin présidentiel. Toujours est-il qu'il y a au moins le minimum, et dans ce minimum, il y a les statuts du RDPC où les choses sont claires. C'est le président national du RDPC qui est le candidat statutaire et qui est le champion organique de cette formation politique à l'occasion d'une élection présidentielle. Pour l'instant, c'est comme cela que les statuts organisent les choses.
Et le professeur Jacques Famdongo, le ministre d'État, qui est secrétaire à la communication du comité central du RDPC, l'a rappelé dans une publication devenue virale. Plusieurs raisons qui militent pour que le président Paul Biya, s'il le veut, puisse être candidat à l'élection présidentielle. Mais l'éventualité d'une nouvelle candidature du président Paul Biya entraîne depuis quelque temps une levée de boucliers de la part de quelques leaders religieux. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? L'Église catholique particulièrement, dont certains princes de l'Église montent au créneau pour dénoncer clairement l'éventuelle candidature du président Paul Biya.
Monsieur Constanze, certainement les évêques en question sont des citoyens camerounais. À ce titre, ils peuvent avoir des opinions, mais nul n'est obligé de suivre ni de partager leurs opinions. En plus, la République du Cameroun, ce n'est pas une théocratie. Chacun est libre en République du Cameroun d'avoir les opinions et les options politiques qu'il veut. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas penser que Paul Biya serait un candidat indiqué, d'autres forces le pensent. Et ils n'ont en aucune manière, et c'est complètement immoral, ils n'ont pas le droit de faire pression sur lui. Monsieur Paul Biya, comme tout citoyen, est libre de ses opinions et de ses actes, à condition qu'il suive les lois et les règlements de la République.
Le problème avec ces leaders religieux, c'est qu'ils sont des leaders d'opinion.
Ils sont certainement des leaders d'opinion, mais il faut faire extrêmement attention à ce mélange de religion et politique. J'en vois certains, comme ça arrange leurs intérêts immédiats, célébrer cela, mais à ces princes de l'Église, il faudrait les renvoyer à ce que le Christ disait, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, ce qui trace bien une démarcation entre les affaires de la foi et les affaires de la politique.
Est-ce que justement le fait que ces leaders religieux veuillent faire leur incursion dans le domaine politique ne peut pas être le terreau pour des lendemains incertains au Cameroun après les élections présidentielles?
Oui, s'ils persistent dans une telle attitude, reste à savoir si leurs homologues partagent d'ailleurs leurs orientations et leurs visions. Je n'en suis pas sûr. Certainement du point de vue de leur position de prince de l'Église, il y a une ligne qui est celle de l'Église catholique, exprimée par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Mais maintenant, celle-ci ne s'est pas exprimée sur cette question. Donc, pour l'instant, il s'agit de prise de position plus ou moins individuelle, même s'il y a trois évêques qui se sont prononcés dans ce sens. D'autres pourraient se prononcer dans d'autres sens. Et là, ça pourrait aussi affecter la crédibilité de la hiérarchie de l'Église catholique.
Parlons du candidat du RDPC. Quelles sont les chances que vous entrevoyez pour celui qui va porter les couleurs du RDPC à l'élection présidentielle?
Je pense que le RDPC demeure jusqu'à présent le parti dominant. Et avec toutes les ressources qui sont associées à cette position qui s'est construite dans le temps. Maintenant, il s'agit pour lui de bien gérer les ressources dont il bénéficie en ayant à la fois la capacité de maintenir ses positions, mais aussi la capacité de redynamiser ses forces et la capacité de suivre l'évolution de la société pour être en mesure de discerner des attentes de changement ici ou là, à condition de les conduire donc dans une logique qui est une logique d'ordre, de paix et de discipline. Pour moi, l'URDPC conserve un avantage. Il reste simplement de montrer qu'en tant qu'appareil, il est aussi en mesure de se renouveler et de matérialiser donc un certain nombre d'orientations qui ont été tracées par son président national à l'occasion des précédents congrès ordinaires ou extraordinaires de cette formation politique.
Et le renouvellement auquel vous faites allusion, comment est-ce qu'il va se traduire sur le terrain concrètement au sein du RDPC ?
Il va se traduire par l'effort d'avoir aussi des cadres nouveaux, de primer aussi ceux qui, à l'intérieur de cette formation politique, ont déjà montré leur engagement et une certaine capacité à défendre leur appareil, en les faisant progresser aussi bien dans l'appareil interne que dans un certain nombre de positions publiques qui sont associées à la position dominante que le RDPC a dans la représentation nationale et qui lui donne la possibilité donc de conduire les affaires de l'État. Mais je pense que la hiérarchie supérieure du RDPC reste attentive à ces questionnements. Et je crois qu'elle observe aussi ce qui se passe, parce que quel que soit ce qu'on en pense, il y a aussi des expressions d'impatience, il y a des attentes de renouvellement. Je pense qu'une politique de sagesse est une politique qui essaie toujours de concilier le sens de l'acquis, le sens de ce qui est établi également, en même temps de renouveler, de redynamiser, de revitaliser.
Le président de la République, dans son message à la Nation du 31 décembre dernier, appelle les Camerounais à profiter des deux scrutins qui auront lieu cette année pour consolider la démocratie au Cameroun. Cette consolidation est nécessaire pour la stabilité, la paix sociale au Cameroun ?
Oui, si les citoyens camerounais, l'ensemble des composantes de l'État-nation du Cameroun agissent dans ce sens, on aura une consolidation. La consolidation a pour enjeu essentiel de préserver la stabilité de l'État, de renforcer la solidité, la crédibilité des institutions à travers notamment des scrutins qui créent moins de controverses, et également à travers l'institutionnalisation d'un certain sens du fair play, que de part et d'autre, on accepte le résultat légitime tel que ces résultats seront prononcés par les institutions compétentes sur la base de leur analyse des transactions électorales.
Et là, c'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup lors des élections au Cameroun.
C'est un aspect qu'on voit pas beaucoup. Il y a toujours de manière récurrente des controverses. Et toutes ces controverses ne sont généralement pas fondées. Il y a des points qui peuvent être fondés, mais ce n'est pas fondé. En termes de rapport de force, on voit que les formations d'opposition ont beaucoup de difficultés à se construire représentativité nationale. Et c'est aussi d'abord parce qu'elles sont extrêmement dispersées. Et ce problème-là, elles n'ont jamais voulu le résoudre, alors qu'à mon sens, c'est le problème le plus important qui les affaiblit.
Politude sur le poste national de la CRTV.
Vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Notre invité ce samedi, c'est le professeur Mathias Eric Owona Nguini, politologue. Professeur, tout à l'heure, vous faisiez allusion à l'opposition camerounaise. Parlons d'elle justement. On voit des candidats qui se positionnent déjà pour cette élection présidentielle. Parmi ces candidats, on a Maurice Kamto qui a annoncé « Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. Je serai candidat sans aucun doute. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral. Chacun devra en prendre acte parce que telle est la loi. » Question, pourquoi toutes ces explications et ces précisions? Est-ce que le président du MRC se doute de quelque chose?
Oui, mais c'est précisément parce qu'il doute de son éligibilité qu'il fait toutes ces déclarations souvent intempestive. Celui qui est sûr de sa candidature se prépare effectivement pour mettre en place son organisation et sa stratégie électorale. Il ne débat pas sur son éligibilité. Et puis chaque candidat potentiel pense qu'il est éligible, mais il y a aussi des institutions qui vont juger de cela. ce ne sont pas les candidats qui, au final, établissent s'ils sont éligibles ou pas. S'ils sont compétents pour cela.
Il ne peut pas être candidat du MRC.
Si c'est en tant que candidat du MRC, ça ne sera pas possible. Peut-être candidat d'une autre formation politique, encore qu'il faudrait déjà obtenir l'aval des instances de cette formation politique, ou alors, s'il pense en avoir les capacités, candidat indépendant, ce qui n'est pas un parcours très aisé.
Parce qu'il faudra obtenir...
Il faudra obtenir 30 signatures
dans chaque région,
de personnalité ayant un profil bien défini.
Mais est-ce que la possibilité d'être candidat d'une coalition peut lui être proposée?
La possibilité d'être candidat d'une coalition, pourquoi pas? Mais encore, au plan technique, ça devrait toujours s'adosser en réalité sur un parti politique. Ça veut dire que c'est un parti qui, au nom de la coalition, pourrait porter cette candidature à condition que soit donc respecté un certain nombre d'exigences prévues par la loi.
Est-ce que l'opposition camerounaise, professeur Mathias Eric Onang, constitue aujourd'hui un bloc capable de renverser le régime du RDC?
Certainement pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que différentes forces d'opposition et les réseaux qui leur sont associés ont peur d'une candidature du président Biya. Ils savent que l'opposition est très divisée, elle n'a pas les mêmes options idéologiques, elle n'a pas les mêmes orientations programmatiques, elle ne met même pas en place des cadres de convergence entre les différentes plateformes et qu'évidemment, dans un contexte où le RDPC est en position de parti dominant et compte tenu de la stature à la fois politique et institutionnelle du président Biya, si les candidats, ça sera très difficile de gagner. Voilà pourquoi il y a toute cette agitation. Le but étant d'obtenir que les choses soient rééquilibrées en l'absence du président Paul Biya.
Quelles sont les faiblesses fondamentales de l'opposition camerounaise au point qu'elle ne soit pas capable aujourd'hui de renverser le régime du RDPC?
Il y a plusieurs faiblesses. Il y a d'abord des faiblesses d'ordre organisationnel. La plupart des formations d'opposition ne sont pas des appareils politiques d'envergure nationale. Au mieux, ce sont des appareils politiques d'envergure locale. Il n'y en avait même qu'un seul qui était un peu un appareil politique interrégional, d'ailleurs sur une base très limitée, c'était le Social Democratic Front. Mais cette formation a perdu beaucoup de capacités politiques, notamment en raison de ce qu'on appelle commodément la crise anglophone ou la crise du Nozo, parce que son leadership n'a pas su se positionner à l'occasion, notamment pour établir une position nationale sans ambivalence. Les autres formations politiques n'ont donc pas, au niveau organisationnel, une hauteur nationale. Par ailleurs, l'espace politique, de ce point de vue, même dans les formations d'opposition, est très émietté, ce qui les rend très peu capable d'avoir du répondant face au RDPC, qui, lui, a d'abord l'expérience qu'il a eue à gérer l'État et les affaires publiques avant qu'il y ait le multipartisme, et qui a ensuite réussi, malgré une forte vague de contestation dans ce qu'on a appelé les années de Bresse, à maintenir sa position dominante et à la reconstituer, alors qu'en 1992, il a eu à faire face à de vrais déconvenus, n'obtenant pas la majorité parlementaire. Et au cours de l'élection présidentielle, son candidat, le président Paul Biya, a eu à faire face à la forte concurrence de Ni John Frundi, paix à son âme. Depuis les années 90, il n'y a aucun leader d'opposition qui a atteint la stature de John Frundi, notamment entre le début et le milieu des années 90, ou entre le début et la fin des années 1990. Aucun. Chacun doit pouvoir dire cette vérité. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Peut-être dans d'autres conjonctures, on aura un leader ayant cette capacité, et surtout ayant le savoir-faire nécessaire pour pouvoir dégager des convergences dans l'opposition.
Est-ce que vous voyez les leaders politiques actuels des différentes formations politiques présenter une candidature unique? Est-ce qu'ils sont capables de transcender leurs égoïsmes?
Non,
vous
ils
les
peuvent,
voyez
ils
dans
ne,
ce sens
ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le faire.
Pourquoi êtes-vous aussi catégorique?
Je suis catégorique parce que moi, j'observe le jeu politique camerounais depuis une trentaine d'années. Et j'ai pu, à l'observation, dégager un certain nombre de traits de conduite chez les acteurs de toutes parts et même chez les acteurs d'opposition. L'une des grandes difficultés C'est que précisément, alors que ces acteurs d'opposition critiquent le système gouvernant en dénonçant à tort ou à raison ce qu'ils appellent le culte de la personnalité qui profiterait au président Paul Biya, eux-mêmes sont amateurs de ce genre de culte. Ça fait donc que chacun, se voyant un homme providentiel, ne veut pas céder la place aux autres. Et il y a une claire méconnaissance des rapports de force. Des gens qui n'ont aucune représentativité croient simplement qu'ils arriveront à étudier et ne se soucient pas d'abord de démontrer qu'ils ont pu constituer un ancrage. Et un ancrage politique, ça se vérifie dans des capacités de représentativité, dans la présence et la compétitivité à différentes élections. Pas seulement l'élection présidentielle, mais les élections à l'Assemblée nationale, les élections au Sénat, les élections régionales, les élections municipales, évidemment.
Qu'est-ce qu'il leur faut en plus des moyens financiers, en plus de la vision politique?
Il faut une vraie capacité politique. Et comment on sait que la capacité politique existe? C'est dans la capacité d'un groupe politique précisément à faire le travail de séduction de l'électorat potentiel, avec une présentation sérieuse de ses options et de ses orientations, avec une confrontation rigoureuse et honnête de ses orientations avec la réalité. Ça veut dire qu'il ne sert à rien de faire de la démagogie du yakaïsme, yaka, 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 alors qu'on sait bien que ça ne fonctionnera pas. J'ai entendu un leader, censé être l'un des leaders les plus éminents de l'opposition, nous promettre une Coupe du Monde en 2038. Une Coupe du Monde en 2038, quand on sait que ce leader et ses camarades de parti, ses sympathisants, ont violemment critiqué l'engagement du Cameroun pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, en disant que non seulement les stades ne servent à rien, mais en plus que les infrastructures étaient très chères et puis en plus que l'argent a été mal utilisé. D'accord, mais est-ce que c'est la Coupe du Monde qui va coûter moins cher? Il y aura moins d'infrastructures à l'occasion de cette Coupe du Monde. Vous voyez l'exemple typique de mauvaise foi. En plus, il n'y a pas un vrai travail idéologique, parce que quand une organisation politique, même avec des moyens réduits, fait un vrai travail idéologique et programmatique, ça se voit. Quand en plus les leaders et les représentants d'une formation politique se comportent avec une certaine exemplarité, ça se voit. Et ça, ça peut compenser dans une certaine mesure le manque de moyens.
L'exemplarité à laquelle vous faites allusion, c'est dans la gestion des fonds, par exemple, du parti politique?
Tout à fait, c'est la gestion des fonds des partis politiques qui sont alloués sur une base publique. C'est même la gestion des cotisations, des donations qui peuvent venir d'autres acteurs qui sympathisent plus ou moins avec le parti. C'est la capacité du parti à respecter les lois et règlements. C'est la capacité du parti à ne pas s'associer à des dynamiques qui sont contraires à l'unité nationale et à la stabilité des institutions nationales. C'est là où on voit la maturité d'un parti.
Beaucoup ont comme principal programme, élément du programme politique, dégager le président Paul Biya des Tutsis.
Oui, mais c'est le classique Paul Biya must go des années 90, année de notre démocratie encore infantile.
Est-ce que ce message qui devient comme un disque rayé n'est pas de nature à décourager les Camerounais à aller même s'inscrire sur les listes électorales, sachant qu'en face de ces partis politiques, en face de ces leaders politiques, il y a une machine qui est vraiment rodée, qui est le RDPC?
Oui, ça peut effectivement faire que de nombreux courants de la société restent dans une attitude de désintérêt pour les affaires politiques, ce qui également a des implications contraignantes. Quand on se désintéresse de la politique, il ne faut pas se plaindre après.
Professeur Mathias Eric Onanguine, s'il fallait sortir de votre chapeau quelques figures qu'on devrait voir pendant l'élection présidentielle, vous citerez quel nom par exemple?
Je pense qu'il y aura des noms connus. Le professeur Kamto aussi, il arrive à régler ses problèmes de qualification, parce qu'il a de sérieux problèmes de qualification. Et il fait comme si c'est lui qui d'ailleurs dira s'il est qualifié ou pas. Or, ce n'est pas lui de le dire, c'est à des institutions précises, notamment le Conseil constitutionnel. Et déjà, même à l'étape même d'Elections Cameroun, il faudrait déjà pouvoir respecter la loi. Il y a Cabral Libi qui essaiera également d'être candidat, mais il faudrait que soit réglée la controverse au sein de sa propre formation politique, même si pour l'instant, il semble en position de force pour obtenir un règlement de la situation. Il y a Maître Akeremouna qui revient, mais encore une fois dans une logique un peu curieuse. Si on veut vraiment faire de la politique, il faut la faire sérieusement. On ne peut pas adopter en permanence la stratégie du parti Yango. On va louer un parti pour se présenter à l'élection présidentielle. Il faut faire un vrai travail politique, constituer un appareil politique avec d'autres acteurs. Il y aura évidemment le chairman du Social Democratic Front, soit comme candidat, soit éventuellement comme faiseur de roi, un rôle dans lequel certains ne l'attendent pas, mais peut-être dans les mois qui viennent, vous verrez ce que je veux dire.
Quelle chance pour des candidats comme Cabral, il a été troisième à l'élection présidentielle. Est-ce que vous le voyez dans une certaine progression de la conquête de l'opinion publique au Cameroun?
En fait, ça va dépendre de la configuration des candidats au bout du processus de sélection par Elections Cameroun et par le Conseil constitutionnel et en fonction aussi des stratégies de coalition des différents groupes. Vous savez que M. Libi, pour l'instant, est dans un groupe qui travaillent sur ce qu'ils appellent, de manière un peu malheureuse d'ailleurs, une transition pacifique. On ne fait pas de transition dans un système institutionnel consacré. Faire une transition, c'est sortir d'un système institutionnel. C'est aller dans une direction extra-institutionnelle. Donc c'est un terme un peu malheureux, bon, mais qui veut peut-être indiquer la volonté de changement fort que porteraient ceux qui ont adhéré à cette coalition-là. Il y a d'autres coalitions, il y a même des coalitions personnalisées. Hein. C'est la coalition APC autour du professeur Maurice Kamto, mais encore faudrait-il qu'il soit qualifié.
Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation.
Nous allons parler de l'autre élection qui aura lieu en 2025, professeur Mathias Eriko Nawingini. Il s'agit des élections régionales. Le président Paul Biya l'a annoncé le 31 décembre dernier. Quels sont les enjeux de cette consultation électorale quand on sait que les conseils municipaux et les chefs traditionnels?
Oui, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés au fait que notre pays, et nous ne le notons pas suffisamment, a intérêt à progresser dans la décentralisation et particulièrement dans ses aspects régionaux. C'est une dynamique qui me semble importante pour la maturation démocratique que de faire que les collectivités territoriales décentralisées prennent une place de plus en plus importante dans la gouvernance et travaillent donc à construire un équilibre de pouvoir un peu plus large à l'échelle nationale. Donc, les élections régionales ont un intérêt. Simplement, l'opposition, au départ, n'a pas fait preuve de prospective. Elle a négligé ce scrutin-là et ça a permis au RDPC, de manière habile, de construire une domination qui va être difficile à détricoter tant que, à l'occasion d'élections municipales, il n'y aura pas de retournement de la forte majorité du RDPC, ça va toujours être difficile pour les formations d'opposition de pouvoir figurer de manière avantageuse à l'occasion des élections régionales.
Est-ce que la mise en place de ces conseils régionaux et les assemblées régionales a contribué à améliorer la vision que les Camerounais ont de la décentralisation?
Ce n'est pas encore vraiment le cas. Pourtant, il est important qu'on progresse dans ce registre. Ça réduirait les convoitises autour du pouvoir central. Et pour le développement national, ce développement ne sera pas possible si on n'opère pas aussi une mobilisation consistante au niveau des régions. On ne peut pas simplement développer par le haut. Il est important également de développer par le local et le régional.
Puisque nous allons vers la fin de cette édition de Politude, quand vous regardez les prises de position aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les débats dans les médias, est-ce que vous appréhendez l'élection présidentielle 2025?
Avec les signaux que je vois, il y a des risques. L'une de mes spécialités, l'un de mes centres d'intérêt en tant que politologue, c'est la sociologie des crises politiques. Le sociologue des crises politiques, il est un peu comme un sismologue. Il peut déjà voir des signaux précurseurs de choc et de tension, et même de tensions qui ont des ramifications internationales. Je crois que les autorités du Cameroun doivent faire attention. Il y a le vent qui souffle n'est pas nécessairement un bon vent. Il y en a qui veulent à tout prix installer le Cameroun dans l'instabilité et même dans une division. Or, nous sommes un pays extrêmement complexe et très sensible. Et les apprentis sorciers qui nous veulent nous inviter à la danse du chaos ne savent pas que cette complexité, si elle passe dans ce genre de phase, elle sera insoluble. Il n'y a aucune puissance, je puis vous le dire, monsieur Zeu, qui serait capable d'arrêter un conflit au Cameroun. Je dis, quand je parle des puissances, je parle des États les plus puissants du monde.
Les signaux que vous percevez, ce sont lesquels, par exemple?
Les signaux que je perçois, ils ne datent pas d'aujourd'hui, monsieur Zeu. Je peux vous dire que le Cameroun fait face à une hostilité internationale qui est déjà une forme de guerre et que les spécialistes appellent la guerre hybride depuis à peu près une dizaine d'années. Ça a commencé de manière nette en 2012 avec les premières actions de Boko Haram. Ça a continué avec ce qu'on appelle la crise anglophone. Et maintenant, les premiers signaux de ce que je vois là pour 2025 me montrent qu'il y a des choses homologues. Qu'est-ce que je veux dire? En 2016-2018, en réalité, il y avait déjà un jeu qui visait à empêcher le président Paul Biya d'être candidat. Et c'est ce jeu qui a conduit à ce qu'on a appelé donc la crise anglophone. Ça a commencé par l'instrumentalisation des syndicats, des étudiants, de la confrérie des avocats, et ça a fini dans une rébellion armée. Et le problème, et c'est une terrible ironie, ceux qui ont parrainé tout ça sont aujourd'hui incapables d'arrêter ce qu'ils ont eux-mêmes lancé. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des manœuvres pour que rentrent dans l'agitation politique des leaders religieux et de confessions qui sont très importants dans la sociologie culturelle et politique de notre pays. L'Église catholique, en tant que puissance sociale au Cameroun, ce n'est pas rien. Il faut à la fois lui accorder la considération, en tenir compte de ses recommandations, mais en même temps éviter qu'elle devienne un État dans l'État, comme pour toute autre confession. Le Cameroun, c'est une république laïque. Ce n'est pas une théocratie. Et les élections ne se font pas, ni dans les églises, et c'est un catholique qui vous parle, ni dans les temples, ni dans les synagogues,
ni dans les mosquées,
ni dans les forêts sacrées, même pas dans les loges. Elles se font dans des conditions républicaines. Chacun a droit, s'il le souhaite, d'avoir des opinions spirituelles, religieuses, métaphysiques, mais la République est au-dessus de cela. Et il ne faut pas accepter l'intrusion du religieux dans la politique, parce que ça peut nous conduire très loin, dans un pays très divers.
En plus de ces signaux qui sont peut-être à redouter, est-ce que le comportement des Camerounais dans leur ensemble montre qu'ils veulent préserver la paix, comme le souhaite le président de la République?
Je ne suis pas sûr que tous les Camerounais veuillent nécessairement préserver la paix. Vous savez, moi je pratique, ce n'est qu'un espace relatif, hein, mais c'est un espace quand même qui est symboliquement révélateur. Je pratique beaucoup les réseaux sociaux et à nouveau, comme en 2018 et peut-être même de manière plus radicale, il y a des discours véritablement extrémistes. Il y a des gens qui sont vraiment dans des postures de désespérance. Il faut pouvoir faire attention à tout cela pour que la paix, l'ordre règne, mais dans des conditions où le Cameroun peut avancer dans la consolidation de la démocratie.
L'amélioration des conditions de vie des Camerounais peut participer à décrisper un peu...
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, pour tout gouvernement, est important. Mais cela va passer, M. Zeu, dans le moyen terme, à engager des réformes profondes et même souvent des réformes qui vont à l'encontre du consensus international. Les voies pour développer le Cameroun ne suivront pas et les autres pays d'Afrique ne suivront pas nécessairement les chemins qui ont été vus ailleurs. S'il s'agit simplement de reproduire des solutions qui sont téléguidée depuis l'extérieur, on n'en arrivera nulle part. Et c'est d'ailleurs ces solutions toutes faites qui ont accru le malaise social. Parce qu'en réalité, on a préconisé des réformes, elles ont été faites avec plus ou moins d'efficacité, mais en fait, toutes ces réformes n'ont jamais pu résoudre le problème de la transformation. Or, le paradoxe, c'est que la transformation s'est effectuée tant bien que mal avec les institutions initiales qui étaient pourtant décriées à l'époque de ce qu'on appelait le parti unique. Nous avancions tant bien que mal, avec beaucoup de bricolage peut-être, mais on avançait. Mais paradoxalement, et c'est un terrible paradoxe, alors que la démocratie doit nous permettre d'avancer, on stagne. Il faut donc trouver un mécanisme permettant que la démocratie se consolide, mais en même temps qu'elle soit porteuse de transformations économiques qui améliorent le confort économique des Camerounais.
S'il fallait se résumer, professeur Mathias Erico Nankini, pour qu'il y ait des élections présidentielles et régionales apaisées au Cameroun en cette année 2025, le secret, c'est quoi?
Que la classe politique dramatise moins les élections de 2025. La construction démocratique se fait toujours dans le temps. D'ailleurs, à mon avis, le leadership de l'opposition camerounaise ne me semble pas assez habile. Il ne faut pas considérer que 2025, c'est la fin du monde si l'opposition ne gagne pas. Mais insérer 2025 dans une stratégie qui est plus longue, si l'opposition peut gagner, elle gagnera. Si elle ne peut pas gagner, il ne faut pas transformer cela en occasion de semer l'apocalypse dans le pays, mais continuer à travailler pour que l'essentiel soit préservé, la stabilité. Créons à l'occasion de cette élection, et c'est ce qui a manqué dans d'autres phases, et c'est pourtant un élément important de programmation, un vrai débat. Parce que la grande faiblesse est de l'opposition, mais ça va même au-delà de l'opposition, s'il faut un débat sérieux sur les orientations. C'est ça qui fait aussi mûrir les systèmes politiques. La politique ne peut pas se limiter à des émotions primitives. Non, il faut quand même un peu d'élaboration dans tout cela. Des choses comme Paul Biya ne doit pas être candidat et on préfère le diable si c'est Paul. C'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux du tout. Et en l'occurrence, un prince de l'Église ne peut pas faire l'apologie du diable. Il y a un problème de déontologie professionnelle.
Le professeur Jacques Famdongo, le ministre d'État, parle de mettre sur la table les faits contre les faits, programme
bien
contre
entendu,
programme.
Bien entendu, c'est ça la compétition démocratique et pluraliste. Qu'on aille à une confrontation basée sur les idées, sur les orientations, sur la présentation que l'on a des faits de la vie politique nationale. Et les uns et les autres doivent accepter qu'on n'a pas les mêmes positions. Puis, en fait, mettre ça dans la compétition et chacun va présenter ses arguments. Mais vous ne pouvez pas être dans une situation où certains veulent, par exemple, dénier au président Paul Biya la possibilité de se représenter s'il voulait se représenter, parce que rien ne lui interdit du point de vue des lois et des règlements de la République de le faire. C'est sa conscience qui va établir s'il se présente ou pas.
Dernière question, quels avantages le Cameroun a à voir le président Paul Biya se représenter à cette élection présidentielle?
En dépit des apparences, ou du moins pour certains courants, Paul Biya va toujours incarner la stabilité. Maintenant, il ne suffira pas au président Paul Biya, s'il est candidat et qu'à nouveau qu'il gagne, de représenter la stabilité. Il lui faudra également s'accompagner d'une équipe capable de prendre effectivement à corps des défis de transformation.
Professeur Mathias Eric Owonankini, politologue, merci pour vos précieuses analyses dans cette première édition de Politude 2025.
Je vous en prie.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de Politude. Prise de son, René Nang. Réalisation, Rose Coco. Présentation, Constanze. Politude est une coordination de Georges Kellon et Valérie Dikosumaru, directeur de rédaction radio. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio. Merci d'avoir écouté. À samedi prochain.